Et merci de vous installer. Merci d'être venu à cette nouvelle séance de notre cycle Relire avec. C'est un cycle co-organisé par les revues Parler du Centre Pompidou et la Bibliothèque publique d'information. L'idée était de profiter du riche fonds de documentaires consacrés à des écrivains dont s'occupe Catherine Blangonnet à la BPI. Et le principe est, une fois par mois, de projeter l'un de ses films sur un écrivain, en général mort, et d'inviter un autre écrivain, en général vivant, pour venir en parler, donc avant ou après. Ce soir, le film, c'est Is Dead, portrait incomplet de Gertrude Stein. C'est un film d'Arnaud Despalières qui date de 1999, qui a été fait dans la série Un siècle d'écrivains, en 99. Et nous avons invité pour en parler Jacques Roubaud, qu'on ne présente pas, enfin que je ne chercherai pas à présenter, mais qui s'intéresse à Gertrude Stein depuis, je crois, assez longtemps. Il nous a dit tout à l'heure qu'il avait encouragé, ça devait être dans les années 70, Denis Roche a publié des traductions de Gertrude Stein dans la collection qu'il dirigeait. Je sais qu'il avait été mêlé à un colloque à Cerisy autour de Gertrude Stein en 1980, qu'on retrouve quelques textes de Stein traduits par lui dans un livre qui s'intitule Traduire journal, qui a été publié aux éditions Nous. La rumeur veut, mais je crois que c'est pas juste une rumeur, que Jacques Roubaud a légué ou donné sa bibliothèque américaine au Centre international de poésie Marseille, qui est une belle collection d'ouvrages de poésie américaine, sauf les livres de Gertrude Stein. Je pourrais simplement finir en citant les quelques publications les plus récentes de Jacques Roubaud, donc pour 2008 et 2009. Il y en a déjà eu beaucoup, donc pour pas en oublier, je les ai préparées sur un petit bout de papier. Donc il y a eu Au seuil, Parc sauvage et impératif catégorique. Il y a eu La dissolution aux éditions Nous, que j'ai cité. Eros mélancolique avec Anne Garetta chez Grasset. Et une très belle réédition illustrée de La princesse Opie ou Le conte du Labrador chez les jeunes éditions Absalon qui sont à Nancy. Donc nous allons d'abord regarder le film et Jacques Roubaud viendra parler de Gertrude Stein à l'issue de la projection.
En 1934, Gertrude Stein et Alice Toklas font une tournée aux USA. Lecture, conférence, rencontre avec le public. L'autobiographie d'Alice Toklas a été un énorme succès, un best-seller inattendu, et la curiosité est grande d'entendre et de rencontrer le monstre moderniste. Une caricature du New Yorker montre un agent des douanes qui révèle ce que Stein lui a déclaré. Four hats is a hat is a hat. C'est un exemple, et il y en a des foules, d'allusions à un vers resté célèbre de Stein, elle en parle dans le film, qui est presque la seule chose que quasiment tout le monde sait d'elle et pourrait figurer dans l'autobiographie de tout le monde qui, l'année suivante, ne fut pas un best-seller. A rose is a rose is a rose is a rose. On remarque aussi que le douanier de la caricature n'a mis que deux chapeaux à la droite du prédicat d'existence. Il n'est pas le seul. Une sorte de paresse ou de paralysie semblait s'emparer de la plupart de ceux qui citaient ou imitaient le vers de Stein. Apparemment incapable de compter jusqu'à trois. Ignorant sans doute l'avertissement de l'homme à la barre dans La chasse au snark de Lewis Carroll, c'est la troisième fois que je vous le dis, et ce que je vous dis trois fois est vrai. La rose steinienne n'est vraiment la rose steinienne que la troisième fois. Il n'est pas moins remarquable que trois quarts de siècle plus tard, la même maladie du langage est encore aussi répandue. Je ne donnerai, sans citer de nom, que deux exemples parmi beaucoup. Un auteur de langue française titre un de ses livres en anglais pour souligner sans doute l'allusion qu'il va faire « Heroes are heroes are heroes ». Deux. Le deuxième exemple est très beau. un autre auteur ayant écrit quelque part « L'actualité est l'actualité est l'actualité ». Soudain inquiet d'être lu par des incultes, commente ainsi. La forme est évidemment, on est gêné d'avoir à le souligner, une allusion à Stein, « A rose is a rose is a rose ». 2. On a souvent, avant et après 1934, tenté de pasticher le style de Stein. Les résultats sont absolument affligeants et font apparaître les vieux volumes de ma jeunesse, le « à la manière d'eux », comme des œuvres de génie. Par exemple, la revue Action Poétique vient de s'illustrer dans ce genre avec un texte qui ouvre son numéro 196 intitulé « Gertrude Stein, méditation quand je suis sur le point de me moucher ». Il est apparemment de bon ton, aujourd'hui comme en 1934, de continuer à traiter Stein avec cette charmante désinvolture. La réaction à l'autobiographie d'Alistoclas n'avait pas été qu'humoristique. En 1935, paraît « Témoignage contre Gertrude Stein », texte de Georges Braque, Eugène Jolas, Maria Jolas, Henri Matisse, André Salmon, Tristan Tzara, publié comme pamphlet numéro 1 de la revue Transition. La lecture aujourd'hui de ces proses sévères et offusquées est éminemment comique. On comprend bien le mécontentement de Braque et de Matisse, qui avaient été défavorablement comparés à leur grand rival Picasso. La vengeance d'Hemingway, qui est assassiné avec brio dans l'autobiographie, fut posthume. Elle a attendu quelques années après sa mort. En 1964. La revue, or, on sait que la revue Transition était à la dévotion de James Joyce. Et Joyce avait été égratigné en même temps que Braque dans l'autobiographie. Ces incompréhensibles que tout le monde comprend. Mais les joyciens, à un moment où leur auteur n'avait pas encore une réputation granitique, avaient vu avec inquiétude l'inattendu succès de Stein. Donc, le petit pamphlet de Transition contre Gertrude Stein était une machine de guerre indirecte. Son but était d'éliminer Stein de l'avant-garde moderniste. Dans les années 30, les attaques contre Stein, plus ou moins publiques, portent sur l'incompréhensibilité, la répétitivité, la banalité de la langue dans les textes de Stein, l'emploi du vocabulaire ordinaire. De plus, les textes de Stein sont pratiquement indisponibles, donc c'est relativement facile. Ces attaques sont, à l'époque, dans les années 30, très fréquemment associées à une bonne dose de misogynie, d'homophobie et d'antisémitisme. Après 1945, bien sûr, l'antisémitisme est plus ou moins abandonné, au moins visiblement. Mais les autres techniques de démolition demeurent. La misogynie, l'homophobie, l'antisémitisme se cachent de plus en plus à partir des années 70. Mais l'incompréhension de ce qu'a fait et voulu faire très consciemment Gertrude Stein est demeurée massive jusqu'à aujourd'hui. Un des grands avantages de la découverte de Stein comme grande figure d'écrivain homosexuel dans les années 70 du siècle dernier aux USA a été de rendre à nouveau accessibles quelques-uns des livres qui avaient paru de son vivant et nombre de textes que personne ou presque n'avait encore pu lire. Malheureusement, comme dans les années 30, c'est le personnage de Stein et l'énigme du couple Stein-Toklas qui a attiré et continue à attirer quasi exclusivement les regards. Bien sûr, ce couple est absolument passionnant. Le personnage est passionnant, le film montre bien. Mais Gertrude Stein, on s'y intéresse à cause de ce qu'elle a écrit. Une grande ignorance historique, volontaire ou non, est en évidence dans l'apparition d'une nouvelle attaque contre Stein, qui est liée aux interrogations inquiètes qu'a suscité aux USA la révélation qu'en 1942, Stein, qui passa toutes les années de l'occupation nazie en France sans y être jamais inquiété, avait entrepris la traduction d'un choix de discours du maréchal Pétain. On lit en effet dans le très précieux catalogue chronologique des œuvres de Stein qui figure à la fin du livre de Richard Bridgman de 1970, Gertrude Stein in Pieces, au numéro 500, à l'item 539, Translation and Introduction to Pétain, Parole aux Français. Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire? Si Stein et Toklas ont survécu sans mal à la guerre, elles l'ont dû à la protection de leur ami Bernard Faye, collaborateur agressif des nazis qu'il avait mis à la direction de la Bibliothèque nationale et qui n'échappa à une condamnation qui aurait pu être capitale qu'en s'enfuyant en Espagne à la Libération. L'attitude de Faye, grand admirateur sincère de l'œuvre de Stein, se comprend aisément. Par cette bonne action, il prenait un gage pour un avenir devenu de plus en plus incertain à mesure que la défaite de l'Allemagne, elle, devenait de plus en plus inévitable. Mais Stein, il faut rappeler alors qu'à ce moment, alors même que Pearl Harbor a conduit les USA dans la guerre, leur gouvernement, le gouvernement des USA, est encore dans les meilleurs termes avec celui de Vichy. Le geste de Stein est parfaitement en accord avec les opinions politiques de la majorité des citoyens des USA à l'époque et avec les opinions politiques de Stein, très conservatrices, et ce qu'elle faisait là n'avait rien alors qui pût choquer. De toute façon, ce qui importe, c'est l'œuvre, pas ou telle attitude momentanée devant des événements. Je ne crois pas, contrairement à Serge Gavronsky, qu'Ezra Pound, admirateur frénétique de Mussolini jusqu'au temps de la République de Salo et même largement au-delà de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avait une poétique fasciste. Pas plus que celle de T.S. Eliot ne peut être caractérisée comme comme une poétique impérialiste torée, ni celle de Céline comme une poétique nazie. Espérons que personne ne va venir nous expliquer que les écrits de Stein exhibent une écriture pétainiste. J'ajoute qu'un texte, le dernier du catalogue de Bridgman, pratiquement donc le dernier texte que Bridgman annonce comme étant une œuvre de Gertrude Stein, s'appelle « Reflections on the Atomic Bomb ». Gertrude Stein est morte en 1946 et ça a été composé peu de temps avant. C'est une contribution non négligeable, sous une apparence paradoxale sinon choquante, à la discussion sur la position que l'on demandait à un écrivain de prendre face aux événements apocalyptiques du XXe siècle. C'est un certain parallèle avec certaines réponses à la formule attribuée à Adorno, quand on le coupe de son contexte, comment il est impossible d'écrire après Auschwitz. L'œuvre de Stein est immense. Elle écrivait tout le temps, quotidiennement ou presque. Et si on s'occupe ainsi, comme elle l'a fait un jour remarquer à quelqu'un, au bout d'un certain nombre d'années, cela finit par faire beaucoup de pages. De plus, la nature de sa manière, extrêmement originale, fait que la chronologie a une grande importance pour la compréhension. Il est encore très difficile d'avoir un accès simple à l'œuvre. Aucune publication d'ensemble n'existe, ce qui est paradoxal pour un auteur de cette importance. Un grand nombre de titres sont épuisés. Un grand désordre règne parmi ceux qui sont disponibles. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas lire tranquillement « Trois vies » de 1906, indépendamment de « Ida » 1940, ce serait absurde. Mais la connaissance de leur position relative dans le présent continu de l'œuvre, une œuvre qui est fondamentalement unitaire, ne peut qu'enrichir la lecture. Je vous donne, après tout, une petite liste qu'on pourrait considérer comme une sorte de minimum vital steinien. Les trois vies, Three Lives, 1906, publié en 1909, le gros roman The Making of Americans, 1911, publié en 1925, qui n'existe toujours pas en français, Tender Buttons, 1912, publié en 14, Lucy Church Amiably, 1927, parution 1930, How to Write, 1931, publié en 1995, Operas and Plays, 1932, Blood on the Dining Room Floor, le roman policier de Gertrude, 1933, publié en 1948, l'autobiographie d'Aristoteles, Portraits and Prayers, Lectures in America, de 1935, l'autobiographie de tout le monde, 1936, Ida, 1940. Il faut ajouter à ça les 8 volumes de l'édition Yale des Unpublished Writings, qui a été inaugurée après la mort de Stein, et qui contiennent au moins 2 textes très importants pour la compréhension de l'œuvre, les Stanzas in Meditation, les strophes en méditation, 1933, publié en 1956, et le roman Mrs. Reynolds, 1940, publié en 1952. Et enfin, quelque chose qui est tout à fait utile, 2 anthologies chronologiques avec une longue et intéressante introduction. Il y a d'abord le Stein Reader de Ulla Dido, qui date de la milieu des années 90, et très récemment, les Selections de Gertrude Stein par John Retallack, qui sont parus en 2008. Tout à fait passionnant par le choix et par la longue introduction qu'il y a au début du texte. Il n'y a pas énormément de traductions disponibles en français. Récemment, et c'est heureux, une nouvelle vague, notamment, qui contient par exemple 2 tours de force, une traduction, et d'ailleurs je pense qu'il y en a 2, des tendres boutons, Tender Buttons, et par Christophe Marchand-Kiss récemment, Stanzas in Meditation, les strophes en méditation. Mais en dehors de ça, il est indispensable d'ajouter que Stein est une voix. Ce qu'elle écrit doit être entendu. Elle-même lisait de manière extraordinaire ses œuvres. Il y a malheureusement trop peu d'enregistrements. Et une exécution orale de textes de Stein est une chose très, très importante. Bon, ça, c'était la première partie de mon intervention. Dans la deuxième partie de mon intervention, va être un peu rude. Un peu rude, non pas, je ne vais pas dire des choses méchantes, mais ça peut apparaître peut-être un peu compliqué. Bon. Moi, j'ai découvert Stein en 1970. J'étais quand même assez âgé déjà. J'étais professeur, visiting professor à l'université de Johns Hopkins. Je lisais de la poésie des USA et je suis tombé sur un texte d'un poète que j'aime beaucoup, qui est David Antin. Et David Antin parlait en termes élogieux de Gertrude Stein. Bon. Ça m'a amené, par curiosité, à ouvrir l'autobiographie d'Aristoclas, que je n'avais jamais lue. Sa lecture m'enchanta. Et je décidai à me mettre à lire cet auteur. Et la raison est la remarque que j'ai déjà citée et que je recite, le moment où Sandy, Braque et Joyce, dit-elle, ce sont ces incompréhensibles que tout le monde comprend. Je laisse de côté Braque, qui ne m'intéressait pas plus que Picasso, mais le jugement porté sur Joyce, alors, me réjouit. La pseudo-avant-garde française, telle qu'elle, en ces années, ne jurait que par Joyce et spécialement se gargariser de Finnegan's Wake. J'avais du mal à partager cet enthousiasme. Il se trouve que j'avais passé plusieurs années à étudier et à travailler sur la théorie mathématique de la syntaxe des langues naturelles, en particulier sur sa version chomskienne, et la prétention joycienne à la création d'une langue sublime et neuve me faisait doucement rigoler, car la conception du langage qui est à l'œuvre dans Finnegan's Wake est purement lexicale. Ce livre est un gros pancake. c'est-à-dire un gâteau à jeu de mots. Mais en dessous de cela, qu'est-ce qu'on trouve ? La bonne vieille phrase anglaise, la plus classique, la plus scolaire, la plus parfumée de rhétorique. Stein est la seule parmi les monstres modernistes à avoir agi dans et sur la langue en toutes ses composantes et en premier lieu la syntaxe. C'est ce qui a rendu pour un certain nombre d'auteurs dans les années 80 de l'intérêt pour Stein. La phrase, la syntaxe. Dès la lecture des Stanzas in Meditation, que je considère comme un chef-d'œuvre, j'ai entrepris d'acquérir et de lire le plus possible de l'œuvre de Stein et j'ai précisément utilisé l'énumération chronologique de Richard Bridgman dans son livre Gertrude Stein in Pieces. Et c'est là qu'on voit apparaître, quand on fait cette lecture chronologique, ce qu'on peut redésigner comme le programme général de composition de Stein. Ça commence avec la mise en chantier de son grand roman, The Making of Americans, la fabrication des Américains, plutôt qu'Américains d'Amérique. Après une vingtaine d'années d'un énorme labeur en ce sens, d'élaboration d'une stratégie, et sans cesser de se poursuivre, elle se mit à réfléchir à ce qu'elle avait fait et continuait à faire. Donc c'est un effort de réflexion qui s'est poursuivi à peu près 8 ans, de 1926 à 1932. À la suite de ce travail, il y a eu une sorte de détente. En écrivant l'autobiographie d'Alice Toklas, elle s'est reposée, et ensuite, dans les dernières années de sa vie, elle a exploité ce qu'elle avait découvert. Je me suis efforcé, donc, dans les années 70, de me faire une idée du travail steinien, de sa pensée sur la syntaxe, qu'elle nomme, elle, grammaire. Et j'ai étudié, de ce point de vue, la plupart des textes que la liste de Bridgman date de ces années. On peut construire à partir de ces textes une espèce de théorie steinienne de la prose. Et en conséquence d'ailleurs de la poésie, qu'elle ne confond pas avec la prose du tout. Vous l'avez entendu dans le film, elle dit très clairement qu'il y a pour elle une différence essentielle entre les deux. Entre parenthèses, non, traduire par nouns par nom n'est pas bien dans le film, c'est dommage, parce qu'il s'agit des noms communs, pas des noms propres. Noms propres, c'est names, et là, ce dont elle parle, c'est nouns, c'est-à-dire les noms communs. Le nom commun, c'est ça qui pour elle est l'objet de la poésie. Alors, je précise que cette théorie que je présente, ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais en même temps, ce n'est pas Stein non plus. Stein n'a pas de théorie préalable. Elle découvre les propriétés à mesure en composant. Elle a toujours travaillé de cette façon. Son point de départ, c'est la grammaire élémentaire qu'elle a appris à l'école. Elle part de là, et à partir de là, elle veut créer sa phrase à elle, qui va être appuyée sur la phrase de l'école, qu'on apprend quand on est un bon élève, mais qui va au-delà. On peut évidemment faire un parallèle. Un parallèle s'impose avec le premier Ponge. Ponge avant qu'il se prenne pour un maître à penser. Et surtout, bien entendu, avec Jean Tortel et Emmanuel Occart. Il y a aussi chez eux un point de départ dans... qui est bien un point de départ sur la grammaire, qui est bien un travail sur la grammaire et la syntaxe, mais sur la grammaire courante, la grammaire de l'école. Alors, je vais énumérer un certain nombre des propriétés que Gertrude Stein découvre en écrivant ses textes. Elle écrit ses textes, elle réfléchit à cette question qu'elle se pose pendant toutes ces années. Qu'est-ce que c'est que la phrase ? Qu'est-ce que c'est que la phrase ? Qu'est-ce que c'est que la prose ? Et de temps en temps, il y a une réponse qui vient. Alors, si cette réponse le satisfait, elle la reprend après. Si ça ne lui plaît pas, on ne la voit pas réapparaître. Bon, la prose est fabriquée avec des phrases. Bon, ça, c'est un point de départ assez simple. Les phrases sont des expressions de base d'une langue qui va être la prose. Bon, donc, ça sera fait avec des phrases. Et une phrase, c'est quoi? Ben, c'est des mots entre deux points. Mots entre deux points. Entre ces deux points qui font une phrase, il n'y a que des mots et des espaces typographiques entre les mots. Rien d'autre et surtout pas de ponctuation. Anecdote très connue du fait qu'il n'y avait pas de virgule dans le manuscrit de « Making of Americans » qui a à peu près 900 pages. Et au moment où Gertrude et Alice l'envoient à l'imprimeur, ça, et qu'il y a des remarques acerbes sur le fait qu'il n'y a pas de virgule. Et comme on discute beaucoup, elle finit par concéder 3 virgules. Mais au moment des épreuves, elle les enlève. Bon. Donc, rien que des mots et des espaces typographiques entre les mots, rien d'autre, pas de ponctuation. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Et là, après tout, les capitales, dit-elle un jour, peut-être sont inutiles. Il est possible, il est lentement, mais de manière inévitable, comme c'est le cas avec les chevaux, il est probable que les capitales vont disparaître. Les phrases, donc, sont faites de mots. Et dans la grammaire élémentaire, on étudie des catégories de mots. Bon, on va faire les phrases avec des catégories de mots. Alors, quelles sont les catégories de mots qui ont un rôle dans la phrase? Toutes les catégories, certainement pas. La phrase, selon Stein, alors la Stein phrase, la S phrase, n'est cette fois pas vraiment la phrase de l'école, n'est plus vraiment la phrase de l'école. Les noms communs, les nouns, n'ont aucune importance dans la phrase. Pourquoi? Parce que les noms communs, les nouns, ce sont des noms propres pour elle. Nouns en names. October is a name. Un nom, c'est le nom propre d'une chose. Un nom commun, c'est le nom propre d'une chose. Or, il faut bien voir que pour Gertrude, ce sont les noms propres, ces choses dont le nom est un nom propre, qui font la poésie. Et par conséquent, on ne peut pas faire la prose, on ne peut pas mettre de nom commun dans la phrase de prose. C'est évident. Absolument évident. Parce que, bien entendu, la poésie n'est pas la prose. Il s'ensuit donc que les noms communs, les substantifs, ne comptent absolument pas dans la phrase. Ils ne doivent pas gêner la phrase. Si on les met, il faut qu'ils soient très modestes. Les noms communs dans une phrase doivent être extrêmement modestes. Et on peut même d'ailleurs se passer complètement de substantifs, même modestes, dans une phrase. En plus, ils ont un autre défaut pour la phrase. C'est qu'ils l'arrêtent. C'est là leur crime. Pour avoir éventuellement une place très difficilement acquise dans la phrase, le noun, le nom commun, doit se repentir. Il doit être inoffensif, il doit être inaperçu. Il est comme les enfants. Nouns should neither be seen nor heard. On ne doit pas les voir ni les entendre, et on ne doit jamais les introduire subrepticement dans une phrase. A noun should never be introduced in a sentence. Bon, on passera très vite sur les autres éléments du vocabulaire. Elle a examiné leur cas dans un livre que je vous recommande, Les conférences en Amérique, les Lectures in America. Les adjectifs, ils affectent les noms communs, et comme les noms ne sont pas intéressants, il s'ensuit que les adjectifs ne sont pas intéressants. Bon, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui est essentiel pour la phrase? C'est le verbe. Le verbe et l'adverbe, bien sûr. L'adverbe à cause du verbe. Donc, essentiellement le verbe. Et pourquoi est-ce que le verbe est bon dans la phrase? Ça, c'est une raison très intéressante que Gertrude a été très fière de découvrir. Les verbes font des fautes. Verbs make mistakes. C'est ça la grande qualité du verbe. It is wonderful the number of mistakes a verb can make. Extraordinaire. Et à cause de ça, à cause de toutes ces erreurs commises par le verbe, il met la phrase en mouvement. Il met la phrase en mouvement. Ah. Donc, il n'y a pas de mouvement sans erreur. On le sait bien, depuis Démocrite. Hein ? On le sait bien. Les erreurs sont ce qui donne la vie aux phrases. C'est une condition de mise en mouvement des atomes de la prose que sont les phrases. C'est le clinamen steinien, hein, le coup de pouce qui met en mouvement, qui met tout en mouvement. Alors le verbe, il est là, il est très important parce qu'il fait des fautes. Mais ce n'est pas le vrai héros de la phrase steinienne. Les vrais héros de la phrase steinienne, ce sont les petits mots. Et en preuve, c'est-à-dire les petits mots, parce qu'ils se trompent eux aussi, hein. Mais ils le font d'une manière plus subtile, plus complète et plus permanente. Une préposition, par exemple, peut vivre une très longue vie en n'étant réellement rien d'autre qu'une erreur. It can live a long life being really nothing and absolutely nothing but mistaken. Alors, les prépositions, ça, c'est vraiment les héros absolus. Et on peut ajouter les conjonctions, les relatifs et les articles. D'ailleurs, si on le veut, on peut considérer que n'importe quel article est une préposition. Hein. Bon, ce n'est pas tout à fait fondamentalement différent. Et on peut même baptiser d'articles d'autres mots, si on en a besoin. Yes is an article. Yes is an article. N'importe quel mot qui est bien utile pour une phrase sera nommé article ou préposition. Donc, la phrase Stein est faite d'articles et de verbes. Elle bouge, elle avance, et la force qui la met en marche est l'erreur. La phrase avance en se trompant. Mais la poésie, alors, qui n'est pas la prose ? Bon, elle, dans le film, vous l'avez entendu, ce qu'elle dit, que la poésie, elle s'occupe des noms communs et elle passe son temps à les adorer, à les refuser, à les placer, à les trahir, à les caresser. Voilà. Hein, voilà. Les substantifs, c'est de ça qu'elle s'occupe. Et avec un mot-clé qui est pas la même chose que se tromper pour les verbes. Trahir. Trahir. La poésie s'occupe des noms communs. Elle leur fait beaucoup de bien. Hein? Apparemment, elle est à genoux devant les noms communs parce que les noms communs sont traîtres. Elle les trahit. La poésie trahit. Donc, la phrase de Stein avance en se trompant et la poésie, elle, en trahissant. Pas mal. Bon. Alors, je ne vous donne là qu'un morceau, le premier morceau, les premières briques élémentaires de cette théorie, parce qu'il y a plein de choses qui se développent à partir de ça. C'est que, par exemple, mais je ne vais pas chercher à développer la série des déductions successives que fait Stein, parce qu'elles ne sont pas toujours au même moment. Hein. À un certain moment, elle va découvrir une propriété, puis elle la garde, elle l'attrape, et puis elle la rejoint à une autre, et ensuite elle avance encore, mais elle ne fait pas ça en un exposé continu. Bon. La poésie est discontinue. La poésie est discontinue, alors que la prose, faite de phrases, est continue. Elle ne s'arrête pas avant d'avoir fini. Une phrase est un moment, n'est pas une séquence d'instants. Et finalement, il est clair que la phrase de Stein est fabriquée avec le temps, avec du temps. Alors que la poésie, se fiche du temps totalement. Totalement. La poésie, c'est un maintenant. En plus, ce maintenant, chez Stein, c'est quelque chose d'assez curieux. C'est un maintenant parce que ça fixe quelque chose qui aura été. Une phrase qui est importante, c'est un intervalle, et dans cet intervalle, il y a finalement une avance et un recul. Donc, on anticipe et on revient en arrière. Et enfin, une hypothèse centrale, dont tout ce qui précède n'est qu'une préparation. La phrase est faite pour deux. Elle n'est pas pour une seule personne. Elle est faite pour deux. Bien évidemment. Qui sont ces deux? Gertrude et Alice. Alice et Gertrude. Alice, Gertrude, Gertrude, Alice. Mais bien entendu, comme il s'agit de deux, et que ça vise bien entendu Alice et Gertrude, Gertrude et Alice, en même temps, il ne faut pas tomber dans l'interprétation purement biographique. On peut lire aussi deux, you and me, you and you, whatever, comme vous voudrez, as you like it. Sans oublier d'ailleurs chez Gertrude qu'il y a un côté Géraldi. Vous avez certainement oublié ce grand poète des années 20, Paul Géraldi, toi et moi. C'est Gertrude Stein, c'est très fréquent, on peut le voir dans les textes, c'est ce que j'appellerais le côté nunuche lesbien. Il est très présent chez Gertrude. Par exemple, un sonnet, a sonnet. To the wife of my bosom, all happiness from everything and her husband. C'est un sonnet d'amour de Gertrude. Bon. C'est merveilleusement nunuche. Alors, cette utilisation du « deux » pour fabriquer les phrases a une logique un peu spéciale, c'est-à-dire que chacun de ces deux s'identifie à l'autre. Voilà. Donc, il y a une sorte de structure biordonnée, de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. Et en plus, dans la prose de Stein, ces deux voix sont dans une île, puisque tout autour d'elles, il n'y a pas d'anglais, il n'y a que du français. Donc, elles parlent dans cet anglais qui est le leur, et elles sont véritablement isolées dans une île. Et une des voix est explicite, c'est celle de Gertrude en train d'écrire, et l'autre voix est implicite, c'est celle d'Alice qui est en train d'écouter ce que Gertrude lui lit et qu'elle va recopier. Et il est tout à fait clair, il y a de nombreux passages où on voit très clairement l'intervention de la deuxième voix qui peut désapprouver, approuver, corriger, suggérer. Bon, je passe sur certaines autres propriétés peut-être un peu moins évidente. Par exemple, qu'une phrase surtout ne doit pas penser. Ne doit pas penser, c'est absolument pas nécessaire. Est-ce qu'on peut faire tout avec seulement des phrases? En mettant des phrases les unes après les autres. Pour Stein, c'est impossible. C'est impossible. Il n'y aurait là que de la répétition. Alors c'est la chose qu'on a évidemment reproché beaucoup à Stein et qu'on entend nécessairement. Si vous prenez un texte un peu long de Stein, ça apparaît comme étant une immense répétition. Mais en fait, il y a une distinction essentielle pour elle entre répétition et insistance. Donc dans « A rose is a rose is a rose is a rose », ce n'est pas la répétition qui compte, mais l'insistance. Cela veut dire que on ne peut pas se borner à répéter des phrases. Si on se borne à répéter des phrases, on n'a que de la répétition. Comment atteint-on à l'insistance dans la phrase ? En passant à une unité d'ordre supérieur qui est le paragraphe. À un certain moment, Gertrude découvre le paragraphe. Les phrases, je peux en mettre 10, 20, 30 comme ça, ça l'énerve, ces phrases qu'elle répète comme ça. Mais si elle arrive à les grouper d'une certaine manière pour faire quelque chose qui va être d'une nature différente, ça sera un paragraphe. Et quelle est la différence entre le paragraphe et la phrase? Bon, le paragraphe est fait avec des phrases. Les phrases peuvent être sont dans des paragraphes. Le paragraphe a besoin de phrases. Il peut se réduire à une seule phrase. Bon, mais une phrase toute seule n'est pas un paragraphe. Pour qu'il y ait paragraphe, il faut quelque chose d'essentiel. Il faut une émotion. Voilà. Une phrase n'a pas d'émotion. C'est le paragraphe qui va contenir l'émotion. Quelle émotion ? Love, forcément. C'est l'amour qui meut. L'amour moteur des phrases et de la prose. Absolument comme chez Dante dans la Commedia. Telle est la prose Stein. C'est la langue de l'île Stein, de l'île de Stein et de Toklas, bien protégée par le fait qu'on ne parle pas anglais autour d'elle. Donc elle est là avec sa langue qu'elle a apprise à l'école, dont elle connaît la grammaire et elle sait quoi en faire. Hein, et avec ça, les phrases et les paragraphes. C'est formidable. Alors, est-ce qu'il est à ce moment-là, et je vais terminer sur ça, on se pose évidemment le problème quand on a parcouru tous ces textes et obtenu dégagé toutes ces propriétés qui sont présentes dans les réflexions de Stein. On se demande, y a-t-il des traits formels qui permettent de caractériser les phrases et les paragraphes ? C'est pas possible. C'est pas possible. Les phrases de Stein sont toutes les phrases qu'elle a écrites comme phrases de Stein. Et ces paragraphes sont tous les paragraphes qu'elle a composés comme étant des paragraphes de Stein, mais on ne peut pas en dire plus. Voilà. Mais, bien entendu, si quelqu'un prend la peine de se plonger un nombre d'années suffisant dans l'ensemble de ces textes, je suis sûr qu'il pourra se faire une idée plus profonde que la mienne de ce qui est phrase et ce qui est paragraphe. Car Stein est cohérente. Et on peut avoir une idée de son style, du style de la phrase et du style du paragraphe à l'aide des exemples qu'elle donne. Ce travail lui a pris plusieurs années. Ça commence vers 1923-24. Et en fait, ça se termine en 31-32. Et là, elle fait une sorte de bilan poétique de tout son travail, qui sont donc les strophes en méditation, les stanzas in meditation. Une dernière remarque que je n'ai pas le temps de développer. Avec cette stratégie et ce type de construction, son idée était de reconstruire et de fonder toute la littérature de la langue des États-Unis, American English. Tout cela à partir de ses conceptions. Mais cela veut dire qu'en même temps, elle entreprend de refonder tous les genres de l'expression artistique dans la langue. Le récit, le roman, toutes les variétés du roman, y compris le roman policier, le portrait, le théâtre, le livret d'opéra, le scénario de film, il y en a un petit qui s'appelle « Deux sœurs qui ne sont pas sœurs », écrit en français. dans chaque cas est une manière de réinventer totalement un genre. Chaque genre reçoit sa marque. C'est probablement pour cette raison, parce que, effectivement, son intervention dans chacun des types de manière d'utiliser le langage artistiquement a donné des propriétés très, très spéciales et très nouvelles, que les gens aux États-Unis qui auraient été les plus à même de suivre l'exemple de Stein n'ont pas été les écrivains, mais les metteurs en scène de cinéma, les metteurs en scène de ballet, les auteurs des auteurs de théâtre ou d'opéra. Dans les années 50 et 60, il y a une prolifération inventive de choses qui se situent ailleurs que dans la composition littéraire propre, parce qu'il est quasiment impossible de refaire du Stein. Bien, voilà.
Merci Jacques Roubaud. Jacques Roubaud m'a dit, avant de commencer, qu'il prendrait des questions s'il y en a. Ah ben... Non, mais dans le micro, s'il vous plaît.
Merci. Ce n'est pas une question de fond, c'est une question relative aux enregistrements que vous évoquiez tout à l'heure, sur l'importance de la performance vocale. Enfin et est-ce que vous avez simplement des références, puisque je sais que je me suis mis en quête. Mais...
On en entend. Il y a eu quelques documentaires faits sur Stein dans lesquels on l'entendait en train de lire certains de ses textes. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ou pas. Moi, j'en ai entendu quelques-uns. Mais...
En fait, oui.
C'est extraordinaire.
On en trouve sur Internet.
C'était absolument extraordinaire.
On en trouve un certain nombre sur Internet. Si vous allez sur le site ubu.com, vous tapez Gertrude Stein et vous en trouvez un certain nombre.
Et si vous voulez, on se rend compte... Ce point essentiel sur lequel elle ne cesse de varier, qui est que sa répétition, dans le film, elle le dit à un certain moment qu'elle répète et que ça bouge un tout petit peu quand elle répète. Elle fait le portrait de quelqu'un, elle a découvert quelque chose de ce quelqu'un, elle le dit, elle le répète, puis elle le bouge très légèrement. Quand on l'entend dire ça, ces variations infimes, qui peuvent totalement échapper à l'œil quand vous le lisez sur la page, sont extrêmement perceptibles. Et le mouvement de la phrase de Stein, là, se sent évidemment beaucoup, beaucoup dans la voix.
Oui. Il peut y avoir un rapport avec la musique aussi répétitive, là.
Vous mettez Pardon?
Avec la musique répétitive américaine, là, Steve Reich, Lamont Young et tout ça.
Je n'ai pas compris ce que vous dites.
Est-ce qu'on peut le mettre aussi en rapport avec la musique répétitive américaine des années 60, je crois?
Ah oui, la musique américaine des années 60 a été très influencée par Stein.
Oui, j'ai l'impression que c'est même...
Stein est antérieur.
Ah oui, bien sûr. Mais justement, c'est un domaine qui le reprend le plus par rapport à...
où, bien évidemment, les créateurs ont été parfaitement capables de comprendre ce que voulait faire de comprendre l'exemple de Stein.
Et avec les micro-variations en particulier, justement.
La musique répétitive dépend énormément de Stein, mais de manière affichée, explicite, c'est clair.
Bon, merci beaucoup Jacques Roubaud, merci à tous d'être venus.
Merci à vous.